Salut, ici c'est Dis ta face près, émission qui veut parler de rap et de gens. Donc si t'aimes le rap, c'est fait pour toi mais pas que. C'est aussi pour celles qui aiment les histoires personnelles et qui veulent découvrir des sons. Je vais faire parler les gens sur le rap et sur leur vie, leur demander leur face près et pourquoi. Qu'est-ce qui leur parle? Qu'est-ce qui les touche, les énerve ou les fait rire? Est-ce que ça leur rappelle quelque chose ou quelqu'un? Si c'est au top, il y aura une bonne punchline ou un bon flow. Pour changer, dans cet épisode, je vais vous parler des grandes chanteuses du rap francophone qui, à mon avis, ont grandement participé à son succès populaire et à son ascension en radio. J'en cite ici quelques-unes, même si elles sont bien plus nombreuses. Karima, paix à son âme. Wallen. Karine. Comme une rage cachée qui s'enflamme pour tout brûler. Quand tu partiras, j'irai trouver plus loin l'amour en sursis. Kaina Samet. Tu peux pas contrôler ma destinée. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Kélia. Pour ce 7e épisode, on écoute Arnaud et Chirine, deux amis bruxellois. On commence par Arnaud. Il nous parle de son parcours scolaire, des limites des propositions d'orientation qu'on nous fait, de son arrivée dans le drag, de son rapport avec ses parents et de son coming out. Et puis Chirine nous parlera de sa découverte de PNL, de la joie collective dans le partage du rap, de l'importance du politique dans sa vie, de ses origines et de ce que le rap a apporté à sa relation avec son frère.
Alors, je m'appelle Arnaud, je suis un artiste non-binaire performeur qui fait du drag à Bruxelles. Je pense que ça me complète bien, enfin, ça me décrit bien, et du coup, donc je suis résident au cabaret Mademoiselle ici à Bruxelles. Alors, avec Chirine, on s'est rencontrés à l'anniversaire de Déborah, donc c'est une amie qu'on a en commun. Mm. Moi, je rentrais d'un show, donc j'étais arrivé beaucoup plus tard que les autres. Avec la gueule encore à moitié entartinée de maquillage. Et j'étais arrivé à l'anniversaire dans quel bar c'était ?
Dauphin.
Non, c'était avant le Dauphin. Avant. On était près de chez eux, l'ancien.
Près du Wills, ouais. Truc.
J'ai oublié le nom du bar. On était là.
Ouais.
Et je crois que c'est là qu'on s'est vu la première fois.
Ouais. Avec une autre amie, Aude. On était avec des sortes de foulards comme top. Et puis après toute la soirée, on est rentré en tram chez Debo et tout. Et Aude était pas poste, elle était en train de faire des trucs genre Britney Spears dans le tram, et Arnaud kiffait trop, il était « Ah, oh, je l'adore, je l'aime !»
Je roulais dans le tram comme d'habitude, je hurle. Et je me rappelle de ta tenue, c'était le foulard avec les tigres blancs, et t'avais le pantalon blanc. Pantalon rose.
Ouais, ouais.
Je me rappelle parce que t'avais marqué, je me suis dit « Ok, fashion icon !» Alors ma phrase préférée, ça vient... Moi, je suis pas très rap de base, du coup, mais je me suis quand même intéressé parce que je trouvais souvent que les textes étaient assez intéressants. Et je pense que la première fois que j'ai écouté du rap, je crois que je devais avoir 9-10 ans, et c'était avec Diams, tu vois. Et je me rappelle de cette phrase, elle était dans La Boulette, qui disait « Me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap ». Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap, et je l'embarque, je l'embrasse, je le macère, je l'embrasse. Je sais pas, ça m'a parlé parce qu'en fait, j'ai l'impression que je comprends un peu le personnage, c'est peut-être juste moi qui me créait le personnage dans ma tête, mais de cette personne qui avait peut-être galéré à l'école, qui a peut-être galéré machin, mais qui avait autre chose dans laquelle elle excellait, dans laquelle elle aimait vraiment bien. Et en fait, ça m'a parlé beaucoup plus tard parce que je pense que comme plein de gens, j'ai eu super longtemps à trouver ce que j'aimais bien, on est super endoctriné avec l'école, il faut faire ça, et du coup, le choix est super réduit. En fait, quand j'ai commencé à ouvrir, mon horizon, en étant adulte et pouvoir avoir vraiment le choix de ce que je voulais faire, j'ai vraiment trouvé quelque chose où je sentais que je pouvais, moi, m'épanouir et exceller, entre guillemets. Et du coup, cette phrase, elle me parlait parce que j'avais l'impression que j'avais pas eu besoin de tout ce parcours scolaire pour arriver à où je suis arrivé maintenant. Même si, bien sûr, que c'est toujours bien d'avoir cette culture et ce background au niveau scolaire. Je pense que c'est important pour peut-être comprendre d'autres choses, mais ça fait pas tout, en fait. Donc, je remercie Diams, mes amis, pour cette phrase. Moi, j'étais quand même un bon élève, mais je pense que j'avais des facilités, mais parce que je trouvais pas ça dur. Voilà, ça fait peut-être très prétentieux de dire ça. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à être lassé, en fait, de ça. Et je pense que je m'y retrouvais plus trop et du coup j'ai fait après, enfin jusqu'au lycée, jusqu'au bac ça a été. Et après j'ai fait 3 ans de médecine moi, où en fait je m'épanouissais pas du tout. Donc j'ai changé, je savais pas du tout quoi faire, mes parents m'ont obligé à trouver un truc très vite. Donc en fait j'ai fait des études d'infirmier où j'ai été infirmier. J'ai eu mon diplôme quand même parce que je voulais avoir quelque chose, peut-être par sécurité. Je pense on a toujours peur de ça en fait. Et du coup, je pense que c'est mes parents qui m'ont inculqué ça comme beaucoup de parents. Ils ont peur pour nous, ils veulent qu'on s'en sorte sûrement. Je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est un diplôme. Je trouve que c'est un beau diplôme et c'est un diplôme qui peut m'ouvrir plein de portes. Mais pour l'instant, je me vois pas du tout faire ça. Et je pense vraiment que c'est une vocation en fait. Mais ce qui est chouette, c'est que pendant l'année de mon mémoire, j'ai commencé à faire du drag à ce moment-là. Et en fait, j'ai découvert ça et j'ai commencé vraiment à m'épanouir et à trouver ce que j'aimais en fait et à pouvoir en faire et avancer et pouvoir m'ouvrir à d'autres horizons, à un nouveau domaine artistique où j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir fait, dû à mon parcours scolaire et dû à l'éducation que j'ai reçue où l'art c'était pas quelque chose d'important, c'était un truc en plus pas pour les garçons, pas tout ça. Du coup, le fait de faire du drag, ça m'a permis, moi personnellement, ça m'a permis d'extérioriser beaucoup de choses que j'avais en moi. Pour extérioriser une féminité peut-être qui peut paraître avec le drag des fois exagérée, mais c'est le but, c'est performatif, c'est pour la scène, tu vois, c'est pas pour se moquer de quoi que ce soit. Enfin, je dis ça parce que c'est rare, mais j'entends des fois des commentaires de femmes qui trouvent que c'est trop exagéré et que c'est des clichés, mais c'est très personnel la féminité, je trouve, c'est plus une attitude en fait que déjà un paraître. Et du coup, moi, ça me permet d'extérioriser ça dans l'attitude, mais aussi dans le physique parce que j'ai toujours lutté avec ça, avec cette d'être pas très masculin, mais pas donc d'être féminin, parce que d'être toujours entre les deux et assez fluide là-dessus. Du coup, je dis pas qu'il y a que le drag pour extérioriser ça, mais moi ça m'a permis vraiment de pouvoir le faire et de le matérialiser. Et en plus de ça, j'aimais bien être sur scène, j'aimais bien pouvoir créer des numéros, danser, maquiller à outrance, tout ça, c'était regrouper tout ce que j'aimais bien en fait. Du coup, ça a été super libérateur pour moi. Quand je marche dans ma ville, comme un goût de gêne quand je parle de ma vie, comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000, comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macaire, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Comme un goût d'alcool dans les locaux de police, comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000, comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il... Alors ma deuxième phrase préférée, donc je suis toujours dans le rap féminin parce que voilà, parce que moi j'ai toujours préféré écouter de la musique de meuf. Et du coup là c'est une chanson assez récente que j'ai découvert et je suis devenu obsédé de cette musique. Je sais pas, elles ont du flow et les paroles sont cool. Il y a une parole, c'est le titre s'appelle AO et c'est par Sheila, Bianca Costa, Davinor, le Juice et Vicky R. Et c'est pendant le couplet de Davinor. Et en fait, elle commence et après elle dit « Ils veulent me donner de la force, ils sont impuissants. »
Quoi ? Ils veulent me donner de la force, ils sont impuissants. Je
suis devant un... Et en fait, cette phrase, je sais pas dans quel sens elle l'a dit. Mais moi, quand je l'ai écoutée, ça m'a fait penser à plein de situations en fait. Plein de situations où... Et surtout, en fait, ça me pense à la situation de mes parents où... Voilà, ça a toujours été très compliqué. Et en fait, ce truc où personne n'est parfait, ils font de leur mieux. Mais ce truc où, en fait, ils veulent tellement bien faire, ils pensent que leur façon de voir, c'est la bonne. Et en fait, ils pensent, du coup, que c'est ça, en fait, nous donner de la force, c'est leur vision de la chose. Mais en fait, face à ma situation et face à mes goûts, ils sont impuissants parce que c'est ma vie, en fait. Vouloir aider la personne en voulant faire le bien, mais c'est pas ce qui est bon pour l'autre personne parce que des fois, on pense ce qui est bon pour l'autre, alors que pas du tout. Parce que, comme je disais avec mes parents, ça a toujours été un peu... Enfin, c'est un peu compliqué. Ça a été compliqué surtout après mon coming out parce que ils sont de confession protestante. Enfin, j'ai dit que j'étais gay à ce moment-là. Je veux pas parler de non-binarité. Ça a déjà été très compliqué. Je pense qu'on va pas aller aussi loin, je pense. Ça, c'est personnel, en fait. Leur vision de tout ça, c'est pas du tout la même que la mienne. Et pour eux, voilà. On sait ce que la religion pense de l'homosexualité. C'est pas un truc positif pour eux. Et du coup, eux pensent faire le bien en essayant ils ont essayé de me faire changer pendant toutes ces années. Les paroles, voilà, c'est très dur à entendre et c'est dur, mais en même temps, ça me faisait chier parce que je pouvais pas leur en vouloir parce que je sais que eux voulaient mon bien en fait et que eux voient ça d'une autre façon. Et du coup, c'est cette phrase me parlait parce que eux, c'est signe de la force en essayant de me faire changer parce qu'ils pensent que c'est bien, mais complètement enfuissant par rapport à mes situations parce qu'en fait, ils ont rien compris. Ils sont complètement endoctrinés là-dedans et tu vois, face à la situation, ils vont pas s'intéresser parce qu'en fait, ça leur fait peur. En fait, je pense que ça leur fait très très peur et du coup, ils s'intéressent pas. Du coup, ça amène tous les trucs. En fait, ils sont complètement ignorants par rapport à ça et du coup, par rapport à ma situation, à ma vie en général, que ça soit ça, que ça soit ma sexualité, mon genre, mes amis, ma profession, tout ça, c'est trop dur à comprendre. Ils aimeraient autre chose, mais ils y arrivent pas, en fait. Ils y arrivent pas et il y a un amour qui me convient pas, il y a une force qui me convient pas, en fait, même si c'est ce qu'ils peuvent me donner, on va dire. Mais c'est pas ce que j'ai envie de recevoir. Donc, c'est là-dedans que cette phrase, elle m'a un peu parlé, quand je l'ai entendue. Et deal avec ça, c'est, voilà. Après, chacun deal avec ça. Est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je coupe les ponts? Est-ce que ça me convient? Est-ce que j'essaie, moi, de faire tout mon possible pour qu'ils comprennent? Est-ce que je m'en fous? Voilà, je pense que chacun après deal avec ça comme il le ressent, mais je trouve que les parents devraient s'intéresser, en fait, et devraient comprendre qu'en fait, on est des adultes, ça, c'est notre vie, et ils sont pas là pour juger, déjà, ils devraient être juste là. Si on est heureux, ou si on leur dit qu'on est heureux, ils devraient être contents pour nous, quoi qu'on fasse. Alors, le rap dans ma vie, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas du tout grandi avec ça, c'est pas un truc que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute pas tant que ça. J'écoute un peu plus du rap féminin, comme je disais, ou du rap plus anglais, américain. Mais le fait d'avoir commencé à en écouter, ça m'a permis de me déconstruire par rapport aux idées qu'on avait. Parce qu'en fait, pendant longtemps, maintenant c'est beaucoup plus déconstruit. Le rap, c'est parti vraiment de la culture, même si ça a toujours fait. Hein, mais avant, il y avait beaucoup de préjugés par rapport à ça. C'était de la musique violente, c'était de la musique de macho, c'était de la musique... moi, j'avais grandi en attendant beaucoup de négatifs en fait de ça. Et en fait, le fait de m'y être un petit peu intéressé, un peu au fur et à mesure d'écouter d'autres choses et de comprendre... C'est juste un style de musique comme les autres, avec juste des gens qui ont trouvé ce moyen-là d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et du coup, je trouve ça hyper cool, bien sûr, de trouver quelque chose qui te permet d'être libérateur, sûrement. Non, sûr, je suis pas d'accord avec tout, je suis pas d'accord avec toutes les paroles. Il y a des fois du rap où je trouve que c'est hyper misogyne, il y a des trucs un peu homophobes, un peu limites. Du coup, ouais, des fois, je trouve... je suis pas d'accord avec tout, mais c'est pour ça que moi j'écoute du rap de filles en général, parce que il y a moins ça, je dis pas qu'il y a jamais, il y a moins, ou du rap de lover, parce que du coup, allez, ça parle un peu plus d'amour et tout, on essaye d'être un peu plus romantique et ça me parle un peu plus.
Alors, je m'appelle Shirin, je suis photographe et vidéaste, plus vidéaste quand même ces derniers temps. J'ai beaucoup travaillé sur l'urbanisme, la ville liée aux politiques, et là maintenant je replonge dans mes racines et je travaille sur l'arabité et comment l'arabité est transmise de corps à corps ou pas, et voilà. Alors, ma première phase, bref, qui est peut-être un peu cliché mais qui me touche beaucoup, c'est de la chanson ODD de PNL. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches.
Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches.
Alors PNL, déjà, pour la petite anecdote, j'ai vraiment mis du temps à écouter et à prendre au sérieux, alors que c'est vraiment un mantra pour moi de prendre au sérieux les choses et les anecdotes, les histoires, tout ce qu'on te raconte, même si ça paraît rocambolesque de prendre au sérieux parce qu'il y a du politique là-dedans. Bref, c'était une soirée d'été. Et c'est un pote qui a commencé à mettre l'ammoniaque. Et à la limite, chialer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Ça va, le vocodeur là et tout, c'est bon, on se calme. Et puis le lendemain, j'ai été réécouter la musique et en fait, j'ai chialé. Et depuis, grâce à l'ammoniaque, je me suis mis à vraiment écouter PNL. Et en fait, ça me touche de ouf. Et la phase que j'ai choisie, c'est parce que non seulement elle me touche, mais aussi je trouve qu'elle est politique. Du coup, c'est une phrase qui a été vachement reprise par les Gilets jaunes et qui a été aussi beaucoup taguée dans les rues. Et je trouve que c'est aussi une sorte de réappropriation de l'espace public, comme tous les câbles à câbles ou nique la police, etc. C'est aussi une manière de réinsérer nos récits invisibilisés dans les rues, quoi. Et au-delà de ça, PNL, je trouve que c'est quelque chose qui touche aussi parce qu'ils sont partis de rien. Enfin, ils ont tout fait, ils sont complètement indépendants, ils ont tout construit eux-mêmes. Que t'aimes ou que t'aimes pas, ça parle à une grosse partie de la population. Et aussi, c'est une manière de visibiliser aussi les mecs qui viennent de quartier. Et il y a un côté aussi qui est complètement... qui est au niveau de la collectivité. Genre PNL, voilà, tu vois, j'ai découvert grâce à quelqu'un. Et après, on écoute. Et comme on disait au podcast précédent, écouter PNL au bord de la pistoche. Mais c'est clairement ça. Et c'est ça qui est beau dans le rap aussi. C'est que non seulement t'as des textes beaux, d'autres moins. Mais bon, voilà. Mais c'est aussi le côté collectivité, cathartique, aller dans des concerts, pogoter, se défouler, avoir plein de souvenirs liés à ça, mélanger de nouveau une sorte de poésie, de politique, de joie, parce que c'est important, la joie. Et ce dont il parle, je pense pas que je l'ai connu moi personnellement, parce que... Enfin, en tant que femme aussi d'origine arabe, mais quand même, tu vois, se balader avec son petit rouge à lèvres, ce petit talon et tout, j'ai pas l'impression... Enfin, on va moins mal me regarder ou je vais moins être... Enfin, par exemple, genre, c'est trop con, mais les contrôles policiers, etc. Mais par contre, ça me parle de par mon oncle, mon frère, plein d'autres mecs qui vivent beaucoup plus ce sentiment... Enfin, tu vois, des mecs qui sont reliés à mon histoire, qui ont déjà vécu ce sentiment de pas appartenir, et puis du coup d'arriver avec une fierté, parce que là, quand PNL parle de ça, c'est parce qu'ils sont avec leur truc Gucci, machin, et tout d'un coup, ils investissent la rue parce qu'ils ont ils se sont réappropriés les codes de la richesse, quoi. Et donc, ça me parle plus comme ça que ça m'a pas touché directement, mais que ça me touche à travers ma filiation, ou mes amis, ou peu importe. Et puis de nouveau, enfin, je sais pas, j'ai grandi dans une famille aussi où le politique était super important. Mon père était 68ard, ma mère femme arabe, etc. Et du coup, on a toujours parlé de politique. Alors, on était tous les riches quand même. Mais j'ai pas vécu dans une famille pauvre. Enfin, j'étais plutôt confortable. Après, c'était pas toujours confortable par la suite, mais au début, ouais. Mais ce qui était étrange, c'est que d'un côté, t'avais la famille... Enfin, je vais vraiment parler de mes origines. Mais du coup, t'avais un côté de ma famille qui était le côté arabe, où là, c'était quand même une... Bah, c'était pas pauvre, mais ils sont passés par la pauvreté. Genre, mon grand-père est parti avant tout le reste de la famille. Il est passé par Marseille, puis il est arrivé à Bruxelles. Et ça a duré genre une dizaine d'années avant que ma grand-mère et les quatre gosses viennent à Bruxelles. Et puis, bon, il y a eu un cinquième gosse à peu près. Et donc parfois, enfin, de nouveau, c'est une pauvreté que j'ai pas vécue personnellement, mais que je vis à travers ma filiation. Donc je peux pas dire que je l'ai vécue. Mais du coup, d'entendre les récits de ma mère et de ma famille, il y a une sorte de distance parce que non vécue, mais en même temps familière parce que vécue par ta famille quand même.
Et hérité.
Ouais, mais ça, enfin, c'est vraiment lié aussi au projet que je suis en train de faire de quels sont les traumas qui sont transmis de corps à corps. Et je pense qu'il y a des trucs comme ça. Enfin, genre, la peur de la police. J'ai jamais été violentée par la police. Pourtant, je me sens jamais bien quand il y a un flic qui passe à côté de moi. Et j'ai l'impression que c'est tellement lié, justement, au vécu de nos ancêtres qui se sont transmis d'une certaine manière. Et, oui, sinon, de manière générale, la richesse, elle est tellement liée en fait à une sorte d'esclavagisme et de domination qu'elle ne peut être que haïe.
Bitch.
Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Ego. Pourquoi toi tu parles en ego? Si ça se tue, ouais, dis-moi qui signe. Pas d'honneur, toi tu sens d'ici. Voilà, baba m'a dit mon fils non. Toi pas calculer ses pédales. Moi j'ai donné pendant longtemps, puis j'ai perdu mes pétales. ODD, je la passe la détail, la paix coule la vie, certes tes regrets devant ton bébé.
je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu sais les pectoraux gainés. Les bacs que t'es marre parce que les Yankees ne tomberont jamais sur messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, tu fais des singeries. La rue, je la dévalade tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches.
Alors, je vais d'abord introduire le fait que ma deuxième phase a été très compliquée à trouver. Et finalement, je suis retombée vers Josman et la chanson Vanille. Le monde pue la merde, mais il a un goût de vanille. Mais tout le monde aime la vanille, tout le monde aime la vanille. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de... Enfin, j'ai choisi finalement Josman, parce que bon, non seulement j'aime bien cette musique pour des raisons un peu similaires à PNL et à ODD, et c'est mon petit frère qui me l'a fait écouter pour la première fois, enfin en tout cas qui m'a parlé de Josman, et comme je vous racontais, j'ai mis du temps à arriver au rap, alors que mon petit frère, lui, a directement été à fond dans le rap, et je comprenais pas trop. Et puis quand, au fur et à mesure, je m'y suis mise, et alors qu'on se faisait écouter des trucs, machin, et puis il met Josman, et je disais, waouh, c'est trop bien, et tout, et puis Vanille, je trouvais ça encore mieux, quoi. Je dis, ah, vas-y, de nouveau du politique mis dans la chanson, mais en même temps, c'est un truc de joie, etc. Puis c'est quelqu'un de jeune, qui finalement aussi... parle de cette jeunesse et de sa comment il se place dans tout ça, donc voilà, j'ai mal à mes 27. Je pense que c'est lié au Covid aussi, et que le confinement a fait quand même un an et demi, deux ans qui sont passés à la trappe comme ça, et donc une sorte de stagnation, et puis j'ai l'impression que je suis coincée au 24, quoi. Et puis comme il y a ce truc aussi où j'ai toujours un peu, j'ai toujours traîné avec des gens un peu plus âgés, et tout d'un coup en fait je rattrape l'âge qu'ils avaient quand on s'est connus et tout, et donc ça fait un peu un... Et en même temps, c'est pas vieux 27, je sais consciemment que c'est pas une question de vieillesse, c'est plus une question de le temps qui passe. Et ben en fait avec mon frère on a vraiment... des parcours de vie super différents. Moi, j'ai toujours été intéressée par des trucs plus artistiques, milieux politiques, etc. Et en fait, quand on a grandi, mon père avait un cinéma d'art et d'essai. Donc, il y avait ce lien aussi. Ma mère travaillait dans une librairie, etc. Et mon frère n'a pas du tout ce lien-là. Et donc, parfois, c'est difficile de créer encore du lien, même si tu aimes la personne, parce que, c'est ta famille aussi, tu aimes la personne pour ce qu'elle aime, mais parfois, c'est difficile d'avoir de créer du lien et d'avoir une discussion par rapport à des intérêts communs quand il y a peu d'intérêts communs. Et donc, en fait, c'était trop cool de pouvoir avoir des après-midi où on prend chacun nos ordi et qu'on se mette nos musiques et qu'on partage. Et évidemment, lui, il a un t-shirt de Jules et tout, mais sûrement plus des années que j'avais jamais dû voir. Mais à partir du moment où j'ai commencé à écouter Jules, j'ai vu son t-shirt, tu vois. Et j'étais là, ah mais c'est trop bien et tout, et du coup il y a moyen de, ouais, c'est une manière de recréer du lien aussi entre nous, quoi. Le rap a apporté beaucoup de choses. Ça apporte une collectivité vraiment, enfin il y a rien à faire, tu t'en soirée, t'es n'importe quoi, tu mets une certaine chanson, t'es sûr que ça va parler à plein de personnes et qu'il y a un truc qui va ressortir et qui amène de la joie, une sorte d'euphorie comme ça, que tout d'un coup tout le monde qui chante la même chanson, les mêmes paroles en chœur, il y a rien à faire, c'est un impact, enfin c'est vibrant. Et puis ça m'a ouverte sur plein d'autres choses, que ce soit au niveau vraiment de la musique, des sons, des paroles, d'un type d'écriture. Et puis ça m'a ouvert sur une autre réalité qui est aussi la réalité de comment est-ce qu'on perçoit le rap de manière générale et dans les médias. Et que du coup c'est lié à plein d'autres questionnements que j'essaye d'approfondir dans mes pratiques ou peu importe dans ma vie. Et ben en fait le rap c'est exactement la même chose. Comment on perçoit les rappeurs et les rappeuses, parce que c'est souvent des gens de la cité, souvent des gens racisés, et que ça regroupe tous ces questionnements de... En fait il y a je vais partir sur un truc, mais il y a quand même un rapport de colonialité aussi vis-à-vis du rap. Et on va aller utiliser leurs chansons, leur musique, leur code vestimentaire, tout, mais en même temps, on les tous réapproprier, être complètement dédaigneux ou dédaigneuses vis-à-vis de d'où ils viennent, de leur histoire, et parce que quand tu vois sur les plateaux de télé, on dit que Aya Nakamura, elle a le même traitement que les rappeurs. Et je trouve que c'est vrai. Tu vois, et ils vont faire des trucs, ils sont invités sur des plateaux et on va leur demander, alors ça, ce mot, ça veut dire quoi? Mais est-ce que c'est vraiment de la chanson?
Ils veulent qu'on soit comme des moutons, qu'on obéisse deux par deux. Mais fuck un berger, l'homme ne peut être guidé que par Dieu. Fuck le chétan, fuck un banquier, fuck un putain de président qui ne veut pas le bien du pays duquel je suis résident. Donc je suis hésitant, car légal ou pas, tout le monde cherche le ralice. Yeah.
pas le choix dans société capitaliste. Tu sais poteau, la vie c'est loin des contes féeriques. Comment peut-on être aussi pauvre d'esprit dans un pays riche? En attendant, le soleil me sourit, la nuit me fait la gueule. J'aime une femme, une mère et c'est la seule. T'inquiète pas, je sais qu'elle est ma famille. Je monte plus la mer, mais il a un goût de vanille. Le silence parle beaucoup, ferme ta gueule pour le bien d'autrui. J'arrive plus à penser, le silence fait trop de bruit. Je monte plus la mer, mais il a un goût de vanille.
Aujourd'hui, on avait Diams, La Boulette, Chila, Bianca Costa, Le Juice, Vicky R et Davinor, Aho, PNL, ODD et Josman, Vanille. Un tout grand merci à Arnaud et Shirin pour leur amitié et leur générosité. Vous trouverez leur travail sur Insta sous le blaze athenasorgelikis, athena.sorgelikis pour Arnaud, c'est son nom de drag, et Shirin Abel, Shirineabel, pour Shirin. Merci à Radio Panique. Si vous voulez participer, vous pouvez contacter la radio. C'était Dita Fasse Pref, créée par Bettina Cordjani.